Europe 1, le 22-22-30.
Sophie Tussaud.
L'ENA, symbole des élites françaises, bientôt supprimée. Emmanuel Macron veut la remplacer par un institut de service public pour diversifier les profils de la haute fonction publique. Le président avait promis cette réforme après la crise des Gilets jaunes. 10 millions de personnes vaccinées en France et toujours beaucoup de méfiance à l'égard du vaccin d'AstraZeneca. Pourtant, il y a moins de risques de développer une thrombose avec une de ces injections que lorsqu'on prend l'avion. Explication à suivre dans ce journal. Un débat houleux et passionnel à l'Assemblée nationale. Des milliers d'amendements ont été déposés sur le texte pour une fin de vie libre et choisie, ce qui amenuise l'éventualité d'un vote. Également dans l'actualité, la situation catastrophique pour les agriculteurs de la vallée du Rhône qui ont tenté toute la nuit dernière de protéger leur culture du gel. Les pertes sont considérables. En football, le Red Star, club de 3e division, est passé près de l'exploit face à Lyon. Un match au bout du suspense et des tirs au but. C'est finalement l'OL qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Et puis comme tous les soirs, on fera un point bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, l'invité éco d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Joëlle Pulinx-Chalet, la directrice générale de la Fédération des professionnels de la piscine, sans oublier les unes de la presse de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Bonsoir à tous. C'est le symbole de l'élitisme en France. L'ENA, l'École nationale d'administration, qui avait été créée en 1945 par Charles de Gaulle, va être supprimée. C'est une décision d'Emmanuel Macron. Avec cette suppression, le président souhaite diversifier les profils de la haute fonction publique. L'idée avait germé avec la crise des Gilets jaunes, Louis de Raguenel.
Oui, le président s'y était montré favorable après la crise des Gilets jaunes avant d'y renoncer. Finalement, c'est décidé, l'École nationale d'administration, l'ENA, sera remplacée par une nouvelle école, l'ISP, Institut du service public. Emmanuel Macron souhaite ouvrir à de nouveaux candidats les grands corps de l'État qui administrent aujourd'hui le pays, dont les plus connus sont l'inspection des finances, le Conseil d'État ou la Cour des comptes. Le chef de l'État veut attirer des profils plus variés, venant des universités et plus uniquement de Sciences Po. Pour la formation, un nouveau tronc commun sera dispensé à tous les hauts fonctionnaires pour les confronter aux nouvelles réalités du terrain, laïcité, pauvreté, écologie, discours scientifique. Enfin, c'est un sujet très sensible. Emmanuel Macron s'attaque à la réforme des carrières en encourageant les mutations, en cassant les logiques de corps et de rente à vie. Et si cette réforme était adoptée avant la fin du quinquennat, eh bien, les hauts fonctionnaires seraient à l'avenir évalués de manière systématique et affectés à une mission en fonction de leur profil et des besoins de l'État et plus sur le seul critère de leur classement à la sortie de l'école. Et si ça ne convient pas, eh bien, on pourra leur proposer une rupture conventionnelle de leur contrat.
Louis, pourquoi cette décision arrive-t-elle maintenant ?
Eh bien, parce que le chef de l'État souhaite montrer aux Français qu'il tire les premiers enseignements de la crise sanitaire, son premier retour d'expérience des dysfonctionnements qui ont été pointés du doigt. Il souhaite s'attaquer au mammouth d'une administration qu'il juge pas assez efficace, pas assez loyale, trop lente, trop puissante, trop endogène, et surtout une administration qui, selon lui, prend trop peu de risques. Bref, un moyen aussi de se prémunir contre les attaques des oppositions sur la gestion de son quinquennat.
Louis de Raguenel du service politique d'Europe 1. L'objectif du président est donc que cet institut du service public voit le jour dès l'année prochaine. Mais pour cela, la réforme devrait être adoptée avant le mois de juin. Et cette annonce suscite beaucoup de réactions, à l'instar de celle de Julien Aubert, le député LR à Felena. Il est issu de la même promo qu'Emmanuel Macron et juge cette décision démagogique.
D'abord, c'est démagogique parce qu'on croit supprimer le problème en supprimant l'école. Mais comme on a besoin d'une école, on la recréera demain matin. C'est démagogique parce qu'Emmanuel Macron en est issu. Et donc, il est le mieux placé pour savoir que cette école a fait d'énormes efforts pour s'ouvrir, mais qu'elle ne peut pas inventer ce qui n'existe pas. Vous ne ferez pas rentrer des gens de milieu modeste s'ils n'arrivent pas à Bac plus 5. Et le problème, il se situe bien avant, dès le bac, voire même dès le primaire. Troisièmement, c'est démagogique parce qu'au moment où on discute de l'euthanasie, qui est une réforme anthropologique majeure, le président de la République n'a rien à dire, sinon de dire que lui veut la fin de vie de l'ENA. Et puis c'est démagogique parce que quand vous êtes énarque et entouré d'énarques, expliquer que si l'État ne fonctionne pas, c'est la faute de votre formation, D'abord, je dirais que c'est assez spécieux. Puis ensuite, je ne crois pas que lorsque M. Salomon a dérapé dans sa gestion médicale, on a accusé l'université de médecine.
Et Julien Aubert, député LR. C'est le chiffre du jour. Plus de 10 millions de Français ont reçu au moins une injection de vaccin contre le Covid-19. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le Premier ministre Jean Castex, qui se félicite que la France soit en avance d'une semaine sur le calendrier qu'elle s'était fixé. Prochain objectif du gouvernement, 20 millions de premières doses administrées à la mi-mai et 30 millions à la mi-juin. Et parmi ces vaccins, il y a celui élaboré par AstraZeneca, un vaccin qui n'a pas bonne presse en raison des risques de former un caillot sanguin. L'Agence européenne du médicament a pourtant redit que le bénéfice l'emportait sur le risque. Et en effet, Anne Le Gall, développer une thrombose avec le vaccin AstraZeneca reste nettement moins probable comparé à d'autres facteurs.
Oui, les caillots sanguins inhabituels doivent être répertoriés comme un effet secondaire possible du vaccin, mais les experts insistent, ces thromboses sont extrêmement rares. L'Agence européenne du médicament a répertorié 222 cas, dont 18 décès, sur 34 millions d'Européens vaccinés. Le risque de thrombose est donc de 6 cas pour 1 million. À titre de comparaison, le risque de thrombose avec une pilule contraceptive de 3e génération est de 400 cas pour 1 million, c'est 60 fois plus. Et l'on peut aussi rappeler que lors d'un voyage en avion de plus de 8 heures, le risque de thrombose veineuse est de 250 pour 1 million, c'est 40 fois plus qu'avec le vaccin AstraZeneca. Ces données sont importantes pour comprendre que la balance bénéfice-risque du vaccin reste largement positive. Il y a beaucoup plus de risques statistiques de mourir du Covid que d'un éventuel effet secondaire du vaccin.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Concernant la situation hospitalière en France, elle est grave, affirme le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Près de 31 000 Français sont hospitalisés, dont plus de 5 700 en réanimation, ce qui justifie l'augmentation des lits dans ces services. Il y en a désormais 8 000 de disponibles, un chiffre qui montera progressivement au-dessus de 10 000 chaque fois que ce sera nécessaire. Et cela fait maintenant un an que la France vit sous différentes restrictions sanitaires pour contrôler l'évolution de la pandémie. Avec les différents confinements, les addictions des Français ont repris le dessus, drogue, tabac, surtout alcool. Beaucoup ne peuvent plus se passer de boire le soir à la maison, Diane Berger.
Oui, parmi les Français qui consommaient déjà des produits addictifs, un tiers a augmenté les doses. C'est le cas par exemple de Félix, un étudiant en communication installé à Paris, qui maintenant a un nouveau rituel le soir, 3 à 4 fois par semaine.
Je m'assois, je lance un film, j'ouvre une bouteille de rouge, quoi, ou je me fais un petit gin tonic ou un truc comme ça. Qui sont en fait des trucs qu'on se dit pas grave jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui nous dise « Bah quand même mec, t'as bu un verre de gin tout seul, quoi. » C'est des substances, on sait tous que c'est des trucs ultra addictifs.
Et vous envisagez d'aller voir un médecin peut-être pour vous en sortir ?
Je pense pas demander de l'aide à des médecins. Très honnêtement, je pense que j'aurais honte.
Et son cas n'est pas isolé. La faute au confinement successif et à une crise qui s'éternise, selon le docteur Olivier Ricobono-Soulier de l'association Addiction France.
C'est important de ne pas rester isolé. Il y a des centres d'addictologie un petit peu de partout en France. Il y a des lignes d'écoute par rapport à ça. Il faut démystifier l'idée qu'en addictologie, il n'y a vraiment que des personnes avec des atteintes de dépendance physique, etc. On accueille dès les premiers questionnements.
Et pour lui, il est d'autant plus important de repérer et traiter cette addiction rapidement que même si on retrouve une vie sociale dans les semaines ou les mois à venir, ces problèmes de santé, eux, pourraient rester.
Diane Berger. Le déplacement de Jean Castex prévu ce dimanche en Algérie est annulé. Il est reporté sine die en raison du contexte sanitaire. Il ne permet pas aux deux parties de se retrouver dans des conditions pleinement satisfaisantes. L'Algérie avait regretté pour sa part que la délégation française soit restreinte. À nouveau des violences ce soir en Irlande du Nord. Malgré les appels au calme de Londres, Dublin et Washington, des heurts ont éclaté. Des pierres et des cocktails Molotov ont été jetés sur les forces de l'ordre. Cela fait une semaine que la province britannique est agitée. Plus de 50 policiers ont été blessés, ce qui fait ressurgir le spectre des milliers de morts survenues lors des 3 décennies qu'ont duré les troubles entre catholiques et protestants. Retour en France, et c'est un débat sensible qui s'est ouvert aujourd'hui à l'Assemblée nationale, celui sur la fin de vie. Un débat dans une ambiance passionnelle. Le texte propose un droit à une fin de vie libre et choisie. Hélène Terzian, vous êtes à l'Assemblée pour Europe 1. Les débats se poursuivent. Ce soir, des milliers d'amendements ont été déposés, ce qui amenuise l'éventualité d'un vote.
Et oui, parce qu'une avalanche d'amendements déposés par une poignée de députés LR viennent faire barrage à ce texte. À la tribune, le député Olivier Falorni a très vite dénoncé cette obstruction parlementaire face à une pile de 4000 amendements.
Aujourd'hui, le visage de l'Assemblée nationale, il est là, devant moi. Ce sont ces 4000 amendements Ces 4000 amendements, mes chers collègues, ces feuilles, elles n'ont qu'un but, d'empêcher l'Assemblée nationale, d'empêcher les représentants de la nation.
Ovation, on l'entend dans tous les rangs de l'hémicycle, puisque le texte est soutenu par des députés de tous bords. La preuve, avec ce scrutin très symbolique, en début de soirée, la grande majorité des députés a voté contre les amendements qui visent à supprimer le premier article.
Voici le résultat du scrutin. Pour 56, contre 256. Ils ne sont pas adoptés.
Nouveau torrent d'applaudissements avant une suspension de séance, puis une reprise qui doit donc durer jusqu'à minuit. 2 heures pour examiner encore près de 3000 amendements. C'est mission impossible.
Hélène Terzian à l'Assemblée nationale pour Europe 1. À l'enquête sur les dîners clandestins, le palais Vivienne à Paris a été perquisitionné aujourd'hui. Pierre-Jean Chalençon est soupçonné d'avoir accueilli chez lui des repas concoctés par le chef Christophe Leroy en pleine épidémie, alors que les restaurants sont fermés. Par la voix de son avocat, le collectionneur a affirmé que ces repas étaient légaux et qu'aucun ministre n'y avait participé. La suspecte de l'attentat déjoué dans l'Hérault a été mise en examen et incarcérée ce soir. Elle est poursuivie pour association de malfaiteurs terroristes criminels et détention de produits incendiaires ou explosifs en relation avec une entreprise terroriste. La jeune femme de 18 ans était en garde à vue depuis son interpellation à Béziers dans la nuit de samedi à dimanche. On prend la direction de la vallée du Rhône à présent où les agriculteurs sont sonnés. Les températures négatives de la nuit dernière ont sévèrement touché les vergers qui sont en train de bourgeonner. Certains ont perdu jusqu'à 80% de leur production. Pour essayer de limiter les dégâts, les agriculteurs n'ont eu d'autre choix la nuit dernière que d'allumer des feux, ce qui a provoqué une pollution sur la région, Jean-Luc Boujon.
Effectivement, un voile grisâtre qui s'est développé dans toute la vallée du Rhône, grosso modo d'Avignon jusqu'à Lyon, où il était encore visible en début de matinée, explique Géraldine Guillot de l'organisme Air Atmo Auvergne-Rhône-Alpes qui mesure la qualité de l'air dans la région.
Ça a commencé assez tôt finalement dans la nuit, à partir de minuit 1h. Les agriculteurs ont dû passer une nuit assez terrible d'ailleurs. Et donc un voile grisâtre, voire même presque noir à certains endroits, qui est assez exceptionnel cette année, d'une rare ampleur, ce qui nous conduit donc à mettre en place une vigilance de pollution sur le bassin lyonnais et sur la vallée du Rhône.
Alors à l'origine de cette pollution, il y a les systèmes de brûlage destinés à protéger les cultures contre le gel. La nuit dernière, il a fait jusqu'à moins 5 degrés dans le secteur, d'où l'allumage de bougies ou de ballots de paille. C'est ce qu'a fait David Vial, qui cultive de la vigne et des abricots à Mercurol dans la Drôme.
C'est notre outil de travail, c'est notre gagne-pain. On essaye de sauver notre saison. Donc effectivement, il y a un gros nuage qui se dégage, mais c'est une fois dans l'année, voire deux. Après, on n'a pas bien d'autres moyens pour essayer de défendre. C'est vraiment de sauver notre saison, quoi.
Voilà, alors pour l'instant, personne n'a trouvé d'alternative pour lutter contre le gel. Le procédé a d'ailleurs été d'une efficacité assez inégale la nuit dernière. Seule consolation, il ne sera pas nécessaire cette nuit puisque les températures ne vont pas cette fois descendre aussi bas.
Merci Jean-Luc Boujon. On va s'intéresser à présent à cette histoire incroyable en Espagne. Un tableau qui devait être vendu avec une mise à prix à 1 500 €. Mais quelques heures à peine avant les enchères, la vente a été bloquée par le gouvernement espagnol car en fait, Henri Leguéry, ce tableau pourrait avoir beaucoup, beaucoup plus de valeur.
Oui, car il s'agirait d'un tableau du Caravage, le maître italien du clair-obscur. L'œuvre intitulée « Le couronnement d'épines » et peinte au début du XVIIe siècle devait être présentée aux enchères cet après-midi à Madrid. On l'attribuait à un peintre issu de l'école de l'espagnol José de Ribera. Mais au dernier moment, le gouvernement espagnol la déclare inexportable. Le musée du Prado a apporté des preuves qui font penser que c'est bien un Caravage. Il s'agirait de Lecce Homo, un tableau perdu en 1659. Écoutez José Manuel Rodriguez, ministre espagnol de la Culture, interrogé par Europa Press.
Nous allons voir si c'est un Caravage, mais ça pourrait aussi être l'œuvre d'un disciple de Rivera. En tout cas, c'est une bonne décision, car c'est un tableau de grande valeur, et j'espère que c'est un Caravage. Nous avons réagi beaucoup plus vite que dans les années 70, lorsqu'un Caravage nous avait échappé pour terminer à Cleveland.
Oui, car en 1974, l'Espagne avait laissé filer vers les États-Unis le crucifiement de Saint-André, l'un des grands tableaux du maître italien. Alors aujourd'hui, en plus de bloquer la vente, l'Espagne va déclarer la toile bien d'intérêt public. Il faudra désormais attendre les résultats d'une étude technique et scientifique avant d'affirmer que c'est bien un Caravage. En tout cas, on ne sait pas s'il y avait déjà de potentiels acquéreurs, mais ce soir, ils sont passés juste à côté d'une très très bonne affaire.
Henri Laguérie, correspondant d'Europe 1 en Espagne. Il y avait du football ce soir et c'est finalement Lyon qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France face aux Red Stars. Victoire au bout du suspense au terme d'un match qui s'est achevé sur les tirs au but après un score nul de 2-2. Le Red Star mené 2-0 avait réussi à remonter au score. Le club de 3e division est donc passé près de l'exploit mais reste très fier de sa prestation ce soir. Écoutez le président du Red Star, Patrice Haddad.
C'était une belle image du Red Star malgré la première mi-temps. On sort digne, c'est ce que je dis, on sort digne. Et ils nous ont donné de l'émotion. De la... Prendre 2-0, on pensait à prendre une tôle. Hein. Comme on dit, si on ne se relève pas et si mentalement, on n'y croit pas. Ils y ont recru et puis voilà, on a vu que rien n'est jamais fini jusqu'au tir au but. Ouais. Où ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Les supporters n'étaient pas dans le stade aujourd'hui, mais ils étaient dans la ville et autour. Ils se sont mobilisés pour être tout autour du stade, dans les immeubles. C'est ça la particularité du Red Star. C'est populaire, ça vibre. Si on avait gagné, ça aurait été comme la finale de la Coupe du Monde ce soir. On est accompagné par des supporters qui aiment le foot, qui savent ce que c'est de mouiller le maillot sur le terrain. Ils aiment ça. Et c'est ce qu'ont fait nos joueurs.
Patrice Haddad, le président du Red Star, avec Cyril de la Morinerie. Il nous reste à voir la météo de demain, ça va pas être terrible, Anissa Haddadi. Le ciel se couvre et le temps se dégrade.
Oui, c'est par le sud, hein. Demain, Sophie, qu'une dégradation arrive, en particulier par le golfe du Lion et jusqu'au sud du massif central. Le ciel est donc très couvert sur ces régions, avec des averses prévues dès demain matin dans les Cévennes. Sur la façade atlantique et jusqu'au centre Val de Loire, là aussi, le ciel est menaçant avec quelques petites averses. Et puis au fil des heures, le temps humide va progresser vers l'intérieur du pays. La perturbation avance et arrive sur la Normandie, sur le centre Val-de-Loire et jusqu'en Bourgogne. Île-de-France sera aussi touchée demain après-midi. À l'est, le ciel reste dégagé et ensoleillé. Et puis dans la vallée du Rhône, prudence, hein, le vent se lève, souffle jusqu'à 80 km/h. Dans le Roussillon, c'est le vent d'Autan qui pourra atteindre, lui, les 90 km/h. Il fait toujours froid demain matin avec moins 4 à moins 2 degrés dans le Grand Est, 1 à 7 degrés partout ailleurs. On aura jusqu'à 11 degrés dans le Pays Basque. Dans l'après-midi, nous allons avoir un net redoux, ça fait du bien, avec 11 degrés à Dunkerque, 13 à Saint-Brieuc, 16 à La Rochelle et Nîmes, 18 degrés à Paris et Besançon, 20 à Clermont-Ferrand et 21 degrés pour Bordeaux et Pau.
Merci Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous à suivre dans votre journal de la nuit La Bourse avec Claire Lemaître et l'interview écho d'Emmanuel Duteil. On se retrouve dans un très court instant.
Europe 1, le journal de la nuit. Sophie Tussaud.
Il est 22h18 et on fait à présent un point sur la bourse.
Retrouvez Top à Wall Street avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Avec vous, Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Sophie.
Wall Street gagne encore un peu de terrain ce soir. Les marchés restent portés par les espoirs de reprise économique et par le soutien de la Fed.
Et le S&P 500 s'offre même un nouveau record. On est sur une hausse pour le Dow Jones, plus 0,17%. 33 501 points. Le Nasdaq, lui, progresse de 1%. Les marchés se laissent porter par les messages rassurants de la Fed. La Réserve fédérale américaine a répété ce soir qu'elle n'était pas prête de réduire son soutien à l'économie. Et puis, le plan de relance Biden aussi fait toujours son petit effet. Tesla, par exemple, monte de 1,9% grâce à un projet d'investissement du président américain dans les véhicules électriques. C'est du vert aussi pour les autres grandes techno. Apple gagne 2%, Amazon plus 0,6%, Twitter plus 3,3%. Twitter qui aurait tenté de s'offrir Clubhouse, le réseau social audio à la mode, mais les discussions ont échoué. Côté devise, l'euro gagne 0,4% face au billet vert, 1,1917 $.
Et à Paris, Claire, le marché parisien clôture en hausse et poursuit sa course au sommet.
Oui, l'indice retrouve ses niveaux de la fin de l'année 2000. Il termine à 6165 points grâce à un gain de 0,57%. Ça monte pour le luxe. Hermès bondit de 3% avec l'aide d'un analyste qui conseille d'acheter la valeur. Dans le même secteur, Kering gagne 2%, LVMH plus 1,5%. Forte hausse aussi pour Bic, le fabricant de stylos et de rasoirs. Odo BHF pense que le titre est nettement sous-valorisé par rapport à ses concurrents et l'action gagne 5%.
Mais en revanche, ça a été encore une séance compliquée pour Europcar.
Oui, le loueur de voitures a annoncé une perte nette annuelle de 645 millions d'euros, plombée évidemment par les restrictions sanitaires. Il se dit incapable de donner des prévisions pour l'exercice en cours. L'action perd un peu plus de 2%. Ailleurs en Europe, c'est du vert ce soir pour Londres, plus 0,8%, pour Francfort, plus 0,2%, Madrid gagne 0,5%, une exception avec Milan qui cède 0,6%, et à Paris, le CAC 40 avance de 0,6%, 6125 points.
Merci Claire Lemaître de Boursier.com. On vous retrouve demain soir pour un nouveau point sur la bourse sur Europe 1. Et c'est l'heure à présent de l'invité écho d'Emmanuel Duteil. C'est l'un des phénomènes de l'année 2020. On n'a jamais vu autant de piscines. Pour en parler, vous recevez ce soir Emmanuel, Joëlle Pulenx-Chalet, directrice générale de la Fédération des professionnels de la piscine.
Bonsoir Joëlle Pulenx-Chalet.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la directrice générale de la Fédération des professionnels de la piscine. Et si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est que vous avez présenté ce matin votre bilan 2020. On ne le sait pas toujours, la France est le deuxième marché au monde pour la piscine derrière les États-Unis. C'est quand même assez impressionnant quand on dit ça. Et ce qu'on peut voir, c'est que notre passion pour les piscines s'est encore accélérée à l'aune de ces confinements. Le chiffre est impressionnant. La progression du nombre de piscines installées en France en 2020 est de 28%. J'ai pas rêvé en voyant le chiffre.
Non, c'est tout à fait ça. 28% de piscines installées en progression l'an dernier. Alors même que, évidemment, pendant le premier confinement, il y avait eu des difficultés d'installation, des difficultés pour voir les clients, pour ouvrir les magasins, etc. Et il y a eu des baisses de chiffre d'affaires sur certains mois en début d'année qui ont été largement rattrapées ensuite. Et c'est vrai que tous les professionnels de la piscine se sont vraiment mobilisés pour arriver à répondre à la demande qui était très importante, puisque effectivement une progression de 28% de piscines installées sur une année, c'est du jamais vu.
C'est du jamais vu. Alors, il faut savoir que depuis quelques années, le marché de la piscine se porte déjà bien en France. Mais là, on le voit, ça s'est complètement emballé, accéléré. Est-ce que la raison est aussi simple que du fait que nous étions à la maison, on a un petit bout de jardin, on se dit on va peut-être pas pouvoir revoyager demain de la même façon, alors je m'installe une piscine?
Alors oui, tout à fait. On pense que le confinement des Français ont accéléré un phénomène qui existait déjà, puisque les Français avaient déjà envie de piscine. Ça fait, comme vous le disiez, 4 années de suite que le marché était en progression. Pour autant, avec le confinement, les Français ont compris l'importance d'être bien chez soi. Et l'installation d'une piscine, finalement, c'est la création d'un espace de vie supplémentaire qui est sûr, qui est convivial et qui contribue à la santé et la sérénité des occupants de la maison. Mmh. L'investissement dans une piscine familiale, c'est pas une dépense. C'est investir dans son patrimoine familial et c'est un investissement bonheur pour toute la famille.
Alors c'est un investissement qui a un coût quand même, 24 000 euros en moyenne pour les piscines vendues l'an dernier en France, c'est quand même très, très important. Mais je crois que les piscines sont de plus en plus petites parce que les terrains sont de plus en plus petits à cause, bien évidemment, de la hausse des prix de l'immobilier dans certaines villes en France.
Alors oui, tout à fait. Autrefois, les piscines étaient installées dans des grandes propriétés parce que aussi le marché n'était pas encore démocratisé. Aujourd'hui, la piscine s'est largement démocratisée. Et même dans les petites surfaces de jardins qui sont même urbaines aujourd'hui, tout le monde a envie d'avoir sa piscine. Donc finalement, la profession s'est adaptée. Nous faisons aujourd'hui des piscines beaucoup plus petites, mais beaucoup mieux équipées, beaucoup plus confortables, faciles à entretenir. La plupart du temps, qui sont chauffées par une pompe à chaleur et beaucoup plus agréables à l'utilisation. Parce que finalement, la première raison d'acheter une piscine familiale, c'est le bonheur en famille.
Oui, on est plus sur des bassins pour pouvoir aller, on va le dire, s'amuser. Mais ce qui vient aussi confirmer assez notablement ce que vous nous mettez en avant, Joëlle Pulenx-Chalet, je rappelle que vous êtes la directrice générale de la Fédération des professionnels de la piscine, c'est que le public est de plus en plus jeune. Quel est l'âge moyen? Qui sont ces gens qui s'achètent des piscines?
Une grosse proportion des possesseurs de piscines sont des ouvriers, des employés, des fonctionnaires et souvent des familles qui ont moins de 3500 euros de revenus mensuels. Il semblerait effectivement, et que c'est un phénomène plus récent, que l'âge des familles qui investissent dans une piscine a tendance à devenir plus bas.
C'est-à-dire, c'est quel âge en moyenne?
Alors, on n'a pas une vraie étude qui peut nous le dire aujourd'hui, donc je ne voudrais pas vous dire...
Mais ce que vous voyez malgré tout, c'est que les gens sont de plus en plus jeunes.
C'est ça, et peut-être aussi que l'accès finalement au crédit immobilier ou de travaux avec des taux d'intérêt qui baissent permet aussi à certaines familles qui ne pouvaient pas accéder à la piscine tout de suite au moment de la construction de la maison, finalement ils se disent bah aujourd'hui avec le crédit qui est pas très cher, je peux investir dès aujourd'hui dans ma piscine et je vais en profiter immédiatement.
Alors il y a des piscines partout sur le territoire en France, mais là aussi c'est presque contre-intuitif, c'est au nord de la Loire que la progression est la plus forte. Est-ce que c'est parce que le taux d'équipement était le plus faible ou bah, c'est là, parce qu'on est plus loin de la mer peut-être dans certaines zones, que traditionnellement on se fait construire le plus de piscines?
Alors il y avait un taux d'équipement moins important dans le nord de la France, c'est finalement assez logique puisqu'on sait que par exemple dans le sud-est on avait recensé une piscine pour 4 jardins, donc c'est un taux d'équipement qui était déjà très fort. On n'était pas du tout à ce taux d'équipement dans le nord de la France. Pour autant, effectivement, on est plus éloigné aussi de la mer, mais également, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits pour finalement améliorer le confort des bassins avec les pompes à chaleur, avec les couvertures automatiques, les couvertures solaires, les abris de piscine et finalement les équipements concourent aussi à ce que la piscine soit agréable à utiliser un petit peu dans toute la France et rallonge la durée de baignade partout en France.
Ce marché, on l'entend, hein, c'est un marché qui est en tension en ce moment, parce que quand on fait une progression de 28% alors qu'on a eu plusieurs mois de fermé, on imagine la demande et l'importance de la demande. Tout le monde n'a sûrement pas pu être satisfait du coup cette année. 2021 s'annonce assez exceptionnel aussi, j'imagine.
Alors oui, 2021 s'annonce également exceptionnel puisque le premier trimestre a été un petit peu dans la foulée finalement des chiffres de l'année 2020. Donc effectivement, on appelle au recrutement au sein de notre profession puisqu'on a besoin de recruter des salariés, des techniciens de piscine pour pouvoir servir le client dans les proportions qu'il souhaite. Aujourd'hui, effectivement, quand on souhaite faire appel à un professionnel de la piscine aguerri qui a déjà un bon carnet de commandes, il va falloir s'inscrire dans son carnet de commandes pour pouvoir obtenir sa piscine.
Eh bien, merci pour tous ces détails, Joël Le Pulinx Chalet, d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de la Fédération des professionnels de la piscine. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci Emmanuel Duteil. Et vous pouvez bien sûr retrouver cette interview sur le site d'Europe 1, europe1.fr. On vous retrouve demain soir pour l'invité écho. Et avant cela, de 13h à 14h pour La France bouge avec Elisabeth Assayag.
C'était l'invité écho avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Restez avec nous, on jette tout de suite un coup d'œil à la une de vos quotidiens de demain et c'est le sujet qui va principalement s'étaler dans vos kiosques demain, la suppression de l'ENA, l'École Nationale d'Administration. Macron s'attaque à la fabrique des élites, titre Les Échos. L'ENA sera donc supprimée à compter de 2022, remplacée par un nouvel institut du service public. L'intégration au grand corps de l'État ne se fera qu'après plusieurs années sur le terrain. La disparition de la prestigieuse École des élites administratives, c'est un coup politique que Emmanuel Macron avait déjà joué au lendemain de la crise des Gilets jaunes, affirme l'opinion. Pour aujourd'hui en France, ENA, la fin d'un système. Libération de son côté scande. L'ENA est morte, vive l'ENA. Loin de la suppression annoncée, c'est plutôt une réforme de façade cachée derrière un changement de nom qu'a présenté l'Élysée. Libération qui titre donc sur la disparition de l'ENA avec un dessin en une de Coco. Ouest France choisit de son côté de mettre à la une le vote historique des députés pour les langues régionales. Pour la première fois en France, les députés ont adopté à une large majorité la proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. Il y a urgence, affirme le quotidien. Le nombre de leurs locuteurs baisse inexorablement. 20 minutes, pour sa part, s'interroge. Mineurs et vaccinés. Un scénario de l'Institut Pasteur suggère que la vaccination des enfants contre le Covid-19 serait indispensable pour lever totalement les restrictions et les gestes barrières. C'est donc à lire page 6 de 20 minutes. Le Figaro, de son côté, s'intéresse à la nouvelle guerre des étoiles entre la Chine et les États-Unis. La rivalité sino-américaine s'étend désormais au domaine spatial de plus en plus militarisé et où Pékin menace la suprématie de Washington dans une nouvelle course aux armements. Voilà pour vos unes de la presse de demain.
C'était les unes du lendemain avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Bonsoir Sophie.
Bonsoir Olivier Delacroix, c'est l'heure de la Libre Antenne à présent, il est 22h30.
Exactement, et on vous retrouve tout à l'heure à 23h pour votre flash.
Je serai là tout à l'heure.
À tout à l'heure.